Damn, ce chacal de proprio m'a encore coupé l'image.
Les environs de la faille de San Andreas ont présenté cette nuit une singulière activité.
Mais il me reste au moins le son.
Ces mouvements ont surpris tous les observateurs scientifiques.
Cambe.
Greg Saunders, de la Hill Century.
Abrégeons, Greg, j'ai des problèmes.
Vous êtes sur une nouvelle affaire?
Non, pas vraiment, non. Je suis seul dans le noir, je vous expliquerai.
Edward, j'ai un western en panne dans le désert.
Quoi? Billy Silver s'est enrhumé?
L'équipe de tournage a disparu.
$1,000, plus les frais.
500.
800.
Canby, Emily Hartwood est là-bas. Votre amie, oui. Elle faisait partie de l'équipe de tournage.
Ah, alors ce sera 1,200.
Très bien. Vous avez une carte? De quoi noter?
J'ai une carte et 5 secrétaires au bout de chaque bras. Je vous écoute.
Vous voyez Barstow, à l'est de Los Angeles? Vous continuez plus au sud, sur 50 miles. Puis vous reprenez vers l'est, sur 5 miles. Après Las Verdes, filez jusqu'au trait noir. Vous le voyez sur la carte? C'est la faille de San Andreas.
Hey, mais c'est le désert Mojave, ça!
Canby, là-bas, il y a une ville. Pas vraiment une ville. Une ville fantôme. Slaughter Gulch.
Ok, je suis votre homme.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes, et bienvenue sur les ondes de CKIA, votre émission sur le monde ludique et le monde des geeks, puissance maximale. Nous sommes en direct de la Fiesta ludique à Montréal, au Collège Ahuntsic, et je suis en compagnie de la fondatrice de Philosophia, Sophie Gravel. Bonne fin d'après-midi, Sophie.
Bonjour.
Sophie, vraiment incroyable, beaucoup de participants aujourd'hui. C'est vraiment un succès monstre, la Fiesta ludique.
En fait, ça a dépassé nos attentes. C'est tout à fait vrai. On s'attendait à voir 150 personnes, peut-être 200 dans nos espoirs les plus optimistes. Et là, la dernière fois que je suis passé au compteur, on avait dépassé les 300 personnes pour la journée.
Incroyable. Et je vois les gens s'amuser. En fin de compte, même nous, on s'est promené un peu partout sur les tables, les différents jeux. C'est vraiment une variété de jeux incroyable que vous présentez aujourd'hui. Des jeux de Philosophia, mais également des jeux d'autres éditeurs.
Oui, en fait, on a 9 éditeurs qui sont ici présents. Et qui présentent leurs jeux. Bon, Philosophia est un des éditeurs, mais ce n'est pas le seul. Et on a même eu la chance d'avoir la participation de certains éditeurs qui sont venus en personne. Et là, je pense à Repos Prod avec Cédric Caumont et Friedman Fries de chez 2F Spiel qui sont ici avec nous aujourd'hui.
C'est de où est venue l'idée de faire la Fiesta ludique?
En fait, Martin Bouchard et moi, l'année dernière, on a participé à la Gen Con à Paris qui a lieu au mois d'avril. Et c'est un gros rassemblement de joueurs en France. Et pendant toute la fin de semaine, on voyait les gens jouer, on voyait les gens s'amuser. On se disait, ça prend quelque chose comme ça à Montréal, faut faire quelque chose. Et on est revenu de là avec une grosse envie de faire quelque chose. Et puis on a dit, ben pourquoi pas, on se lance, allez. Et puis de là est née la Fiesta ludique avec les résultats qu'on voit aujourd'hui.
vraiment extraordinaire en fin de compte. Est-ce que vous avez eu des commentaires des joueurs qui sont ressortis peut-être déjà parce qu'il y avait d'autres choses à faire dans la journée? Est-ce que vous avez eu des bons commentaires des gens?
Oui, on a eu des excellents commentaires. En fait, les gens m'ont dit qu'ils trouvaient ça super qu'il y ait une activité comme ça qui existe. Et le commentaire le plus fréquent que j'ai eu de geek, c'était qu'il appréciait qu'on ait laissé une place aux enfants et qu'on avait fait un espace avec Gigamic, avec Cocktail Games, avec ABBA, et qu'il appréciait vraiment qu'on ait mis des animateurs pour les enfants.
C'est pas nécessairement fréquent qu'on voit ça dans les conventions de jeux, si on veut, justement, des espaces comme ça pour les enfants. Puis on parle des enfants très jeunes, quoi, environ quel âge?
Oui, en fait, on a eu des enfants en poussette ce matin. En fait, jusqu'à l'heure du dîner, c'était le festival de la poussette dans ce coin-là. Il y avait pas mal d'enfants très jeunes, en bas d'un an même. C'est très rare, oui, mais nous, quand on a fait la fiesta ludique, notre premier objectif, c'était d'en faire une rencontre familiale. On voulait que les gens viennent découvrir. Ils pouvaient venir tout seuls, mais on voulait aussi qu'il y ait la possibilité de venir découvrir des jeux en famille. Pour moi, c'est très important.
Suite au succès de ce que nous connaissons aujourd'hui, est-ce que ce sera l'objectif des gens de Philosophia, les gens qui vous entourent, d'en faire une rencontre annuelle ou peut-être une rencontre biannuelle?
Non, une rencontre biannuelle, ça, je confirme tout de suite, ça n'est pas possible. Ça demande beaucoup trop d'organisation et beaucoup trop de temps de notre part, surtout à ce temps-ci de l'année où on sait que c'est très occupé. Mais ce sera un événement annuel, bien sûr. D'ailleurs, ce midi, on était réunis 3-4 organisateurs et on se disait déjà, bon, l'année prochaine, il y a ça et ça à modifier, il y a ça de plus à rajouter. On a déjà quelques idées. Et j'ai même déjà des gens qui ne pouvaient pas venir cette année qui m'ont dit l'année prochaine, tu peux compter sur nous. Donc,
dis-moi,
c'est un rendez-vous pour l'année prochaine.
Bon, on va être là aussi. Dis-moi, Sophie, c'est un rendez-vous avant tout de jeux. Hein? Les gens viennent ici avant tout pour jouer à des jeux. C'est quoi les jeux, les nouveautés peut-être, ou les jeux qui se démarquent du lot?
Tu veux dire aujourd'hui même?
Oui, pendant le festival, pendant la fiesta ludique.
Ben écoute, je pense, c'est juste à observer rapidement sur les tables. Je pense que Rivière d'enfer aura été un des jeux les plus joués. Il y a aussi le fait que Friedman est ici et donc de se faire expliquer le jeu par son auteur, c'est déjà très bien. Il y a Dominion aussi qui a très, très bien tourné. Rhythm and Boulet, on l'a entendu depuis le matin. Hein? Je pense que ça, le succès de ce jeu-là s'est fait entendre. Et non, je pense qu'il y en avait pour tous les goûts.
Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des conventions comme ça de jeux, même à Montréal, qui est la métropole du Québec. Là. Pourquoi exactement est-ce qu'il n'y en a pas plus que ça? Et comment expliquer ça, justement, qu'il n'y ait pas plus de conventions de jeux?
Bien, je pense qu'il faut faire la distinction entre convention de jeux et festival. C'est-à-dire qu'une convention, c'est organisé par des gens qui s'intéressent à des jeux, des joueurs, des geeks, qui se disent, tiens, on va se réunir ensemble, on va inviter des gens, puis on va faire une soirée, on apporte nos bois. C'est sûr que quand on organise un festival et qu'on met à contribution chacun des maisons d'édition qui ont été ici, bien déjà en partant, on a des budgets qui sont plus accessibles, on peut faire, c'est-à-dire plus important, on peut faire une rencontre où, par exemple, comme ici, c'est l'entrée gratuite, où on a des animateurs pour chacun des kiosques. C'est totalement différent. C'est deux initiatives, à mon avis, qui ont autant d'intérêt l'une que l'autre, mais qui visent des publics totalement différents.
Bien, chapeau. Franchement, une belle réussite. Merci beaucoup, Sophie Gravel.
Bien, ça fait plaisir. À l'année prochaine.
À l'année prochaine.
Voici maintenant la pièce de la semaine de notre ami français Yannick de Musax.info. Musax avec un Z et un X.
Brawl est le troisième volet de la série des Super Smash Bros. Sorti sur la Wii en 2008, ce jeu de combat très fun reprend les musiques les plus célèbres des différents jeux de Nintendo. Voici une nouvelle version du thème des mondes sous-marins de Super Mario Bros.
We'll be right back. Oui. Avec eux autres à la fin. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça? Un petit box pop de 30 secondes.
Oui, c'est bon.
Qu'est-ce qu'ils ont pensé de rythme et boulet? Après l'animation, tout ça, c'est excellent.
Non? Ouais, c'est pas évident. Alors là, l'idée, c'est qu'on tient le rythme. Et puis là, maintenant je commence. Là, je vais m'appeler. Donc, on va faire ça. Puis après ça, bang, bang. Là, au lieu de faire ça.
Olivier.
Alexis.
Comment vous avez trouvé ça, rythme et boulet?
C'était vraiment le fun, puis c'était drôle aussi.
Ouais?
Ouais. Moi, je trouvais ça le fun, sauf que c'est sûr que c'est une adaptation à faire, là, parce qu'il faut être vraiment concentré, puis c'est pas mal le fun.
Jean-Luc.
Donc, comment t'as trouvé ça, rythme et boulet?
J'ai trouvé ça bien intéressant. Il y a le chaos contrôlé, là, puis ça joue bien, tu es jeune, les adultes, t'as pas de problème. C'est effectivement hit.
C'est-tu ton genre de jeu, ça, ou...
D'habitude, je cherchais des jeux plus sérieux, plus impliqués, mais justement, il y a juste assez de chaos pour que tu puisses prendre ça à la légère, puis te laisse aller. Ça m'a attiré de l'autre bout de la salle, tellement j'étais curieux des gens. Donc, un hit.
Ich bin Friedemann Friese, und Sie hören Puissance Maximale.
Donc, nous avons la chance de recevoir Friedemann Friese à Montréal. Bienvenue à Puissance Maximale. Tout d'abord, M. Friese, bienvenue. Est-ce votre première fois au Canada?
Oui, ma première fois au Canada.
Et pourquoi êtes-vous venu participer à la Fiesta ludique?
Je suis ici parce que j'ai travaillé avec Philosophia pour Rivière d'Enfer, Philou et Megawatts.
Excellent. Parlons de Rivière d'Enfer. Est-ce que le Canada a été une inspiration pour ce jeu? Puisque vous savez que nous avons une forte histoire en lien avec le dravage du bois.
La première inspiration pour Rivière d'Enfer était de faire un jeu de course très simple avec divers plateaux. Chaque plateau devait refléter une histoire différente. C'était la première idée. Ensuite, j'ai pensé à cette idée simple de carte qui bouge et j'ai travaillé beaucoup sur ces plateaux. Et dans le processus du travail, je me suis rendu compte de comment c'est de flotter sur une rivière avec toutes ses flèches. Ces flèches étaient alors abstraites à ce moment. Je me suis dit, OK, c'est une bonne idée si tu ajoutes des bûches et du courant.
Some logs and there's some currents, so then this came up.
Ensuite, j'avais ce thème de rivière et je me suis demandé où mettre ça. Bien sûr, ensuite, j'ai rencontré Sophie Gravel au Gathering of Friends aux États-Unis et elle a dit « Oui, c'est un bon jeu pour nous, nous allons le faire. » Alors oui, on a fait un environnement qui ressemble au Canada.
Vous avez créé plusieurs jeux. Lequel a été le plus long à créer?
Le plus long à créer, je pense que c'est Fearsome Floors. Il m'a pris le plus de temps parce que j'ai eu beaucoup de temps à faire le système de lettres dans les bordures du plateau qui décide où le monstre entre et ressort.
These letters on the border where the monster goes out and where it comes in and
ça a pris beaucoup de temps à ajuster ça. Ça rend le jeu tellement mieux avec ces lettres. Et c'est une idée qui est venue après 5 ans. Il a fallu que je le teste et teste et teste encore avec autre chose, mais ça ne marchait jamais.
Est-ce que penser à votre idée est l'aspect le plus long de votre travail?
Difficile à dire. Il y a beaucoup à faire pour se préparer au festival, travailler avec les autres compagnies, inventer des jeux, la bureaucratie avec des textes ou peu importe. Bien sûr, je passe la majeure partie du temps à travailler sur le jeu et à le tester.
Of course, the main time I work on inventing games and testing games.
Est-ce que vous vous inspirez en majeure partie de la culture allemande ou de d'autres endroits dans le monde?
Je pense que certainement la culture allemande est présente puisque je fais partie de cette culture. Ça doit l'être. Mais je crois que plusieurs choses viennent des problèmes de mathématiques puisque j'ai étudié les maths. L'inspiration aussi vient de mon expérience de vie ou de la fiction dans les films ou alors... c'est difficile à dire.
Some things came up in my normal life where I see, oh yeah, I can do that. Some came from whatever fiction. You'll see a movie or have an inspiration. So it's hard to tell.
Okay, good. Which one of your games is
quel est votre jeu préféré?
Mon jeu préféré, C'est difficile à dire. D'habitude, mon jeu préféré est celui sur lequel je travaille au même moment. Bien sûr, Rivière d'Enfer m'est très bien connu maintenant puisque j'y ai joué beaucoup et entendu les commentaires des gens. Cependant, je pense que Fearsome Floors est quelque chose que j'aime beaucoup puisque c'est tellement compact et hautement stratégique.
Et pour ce qui est des jeux faits par d'autres créateurs?
Non, c'est parce que tu es assis avec diverses personnes, avec divers sentiments, et pour chaque occasion, il y a un jeu différent. Alors, il n'y a pas... Peut-être que j'ai joué à un jeu et j'ai vraiment aimé ça, mais après, on a joué avec quelqu'un d'autre et le jeu n'était pas aussi bon. Alors, je regarde et bon, on est avec telle personne, on va jouer à tel jeu. C'est donc difficile à dire.
I look, okay, we're sitting with these people there, okay, let's play this or that, and so it's hard to tell.
Est-ce que vous gagnez votre vie à fabriquer des jeux de plateau?
Je vis de ça. Je suis un designer de jeux professionnel. Ok, j'ai ma propre compagnie et c'est une façon de vivre de ce métier. La chose principale est de designer et publier le jeu par moi-même alors que je peux conserver plus d'argent par jeu et vivre de ça.
For me, My main thing is to design a game, but if I publish it by myself, then I earn more money per game, so I can make a living out of it. Okay.
Did you think about? Avez-vous pensé à faire des jeux pour les enfants?
Maintenant, avec Filou et Rivière d'Enfer, j'accède à une autre étape, parce que j'accède à un autre public avec ça.
Yeah, another whatever you call it, some other people, playing it, because these games are 8+, and you can play it with.
Ces jeux sont un plus puisqu'on peut y jouer en famille. Il m'arrive à penser à autre chose parfois. Je ne sais pas, des jeux pour les enfants, ce n'est pas pour moi, je ne pense pas.
Alors, nous avons aussi une question stupide des fans qui veulent savoir si les cheveux verts sont les seuls poils de verre sur votre corps. And these are from girls. Ça vient des filles.
I don't want to tell that.
Je peux pas dire ça.
Ah, c'est donc une surprise, une surprise pour les fans. Alors, c'est tout pour l'entrevue. Merci beaucoup, Friedemann Fries, et c'était un honneur de vous avoir à l'émission.
C'était un plaisir.
Voici maintenant une pièce du groupe français Jambon qui va nous chanter Joue. Donc, le groupe nous rappelle que la vie est un jeu.
Bien, fais un cluedo pour t'amuser sympa, demande ça en cadeau. Joue à Trivial Pursuit, si c'est trop dur pour toi, fais-en un jeu de loi. Fais un Monopoly, fous des hôtels partout, tu gagneras la partie. Joue au Mikado, donne-lui un second souffle, en joue avec des moufles. Moufles. Fais donc un Scrabble, t'es nul en orthographe, t'as qu'à jouer tout seul. Joue à la bataille navale, fais couler sa flotte, énerve ton rival. Joue au gros bouton, dessus pose le doigt et surtout n'appuie pas. Joue au justicier, achète un gros pétard que tu camoufles. Moufle. Je ne m'étais pas posé la question de savoir si cela est raisonnable. Le commun des mortels en fait parfois de belles. Il semblerait que la vie ne soit qu'un jeu.
Je ne m'étais pas posé la question.
Joue à Colin Maillard au bord d'un précipice. Ce jeu est un délice. Joue à ni oui ni oui. Réponds toujours que non. Réponds pas aux questions. Joue avec une Ferrari, fous-la dans le décor, joue avec ta vie. Joue au ballon de baudruche, un grand jeu d'émotion parsemé d'embûches. Bûche. Joue à l'élastique, avec Pierre et Carole, danse la farandole. La 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 la.
Joue au journal TV, achète une caméra, prends un air accablé. Oh. Joue avec Jean-Pierre Gaillard, écoute ses cotations, tu gagneras des milliards.
Joue avec pompier 2000, la boîte contient un casque, un briquet et deux bûches.
Bûche.
Je
Je ne m'étais pas posé la question de savoir si cela est raisonnable. Le commun des mortels en fait parfois de belles. Il semblerait que la vie ne soit qu'un jeu. Je ne m'étais pas posé la question de savoir si cela est raisonnable. Le commun des mortels en fait parfois de belles. Il semblerait que la vie ne soit qu'un jeu. Et hop.
Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale.
All right, donc on est avec Francis Gagnon de Socio-Jeux. Écoute, on est actuellement à la fiesta ludique dans le milieu d'une foule déchaînée en train de jouer à des jeux de plateau. Tu as apporté toi-même tes propres jeux surdimensionnés parce qu'on te connaît avec Socio-Jeux à refaire les jeux classiques mais surdimensionnés.
Ouais,
qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui?
Effectivement, j'ai apporté un Chevalier de la Tour, un beau jeu de chez Abba. Abba que j'aime beaucoup, fait que je me suis amusé à le surdimensionner, j'ai bien aimé ça.
C'est ça, c'est dans le fond, comment tu décrirais ce jeu-là? Dans le fond, c'est un jeu pour les enfants. Et dans le fond, il suffit de constituer une sorte de tour avec des pièces géantes.
Oui. On pourrait définir ça aussi. Le gros qui définit ce jeu-là, c'est qu'il y a une grue. Une espèce de grue qui est activée avec des cordes. Une grue collective. Et puis avec ça, on doit lever les blocs. Alors on doit coopérer ensemble pour lever les blocs pour construire. Ultimement, 3 tours en moins de 5 coups.
OK.
Il ne faut pas se tromper.
OK. Puis dis-moi, en dehors de ça, là, tu reviens du congrès du loisir.
Oui, congrès mondial du loisir. Ouais.
Congrès mondial du loisir. Tu as participé à ça. Tu as rencontré des gens du Paraguay, il paraît.
Ah, du Paraguay, du Chili, du Mexique. Il y avait toutes sortes de monde, toutes sortes de pays là, qui étaient très intéressés au type de produits que j'avais. Là. On était pas mal les seuls à avoir de l'animation de ce genre-là, on va dire. Moi et les partenaires avec qui j'ai décidé de faire, si on veut, là, un kiosque commun. Là.
Puis dis-moi, pourquoi est-ce que le Mexique, puis le Paraguay, puis le Chili s'intéressent à ce jeu?
Ben, probablement qu'ils cherchaient, des, si on veut, des solutions, des outils pour à appliquer, si on veut, pour au niveau, si on veut, de la communauté puis du social, parce que c'est le congrès mondial du loisir. Alors, on cherchait toutes sortes d'outils, de jeux, de concepts, d'animation pour aider les communautés à trouver des nouveaux loisirs, à socialiser, à se réseauter, dans le fond. Puis, ils ont été très inspirés par les types de produits que j'avais.
Oui, par quoi en particulier?
Ben j'avais mon Chevalier de la Tour, mais il n'était pas encore peinturé avec les petites couleurs.
Est-ce que tu as montré ton Villa Paletti?
Oui, j'avais mon super Villa Paletti de 10 pieds de haut. Ça, c'est évidemment, ça marchait beaucoup. Je faisais jouer le monde en plus là-bas, fait que c'était ça qui était très intéressant. Mon kiosque était très attirant. J'avais peu de matériel, mais le matériel était très interactif. J'avais un jeu surdimensionné de Keep It de Foxmine. J'avais Mur de Pise de chez Ferti. J'avais aussi mes jeux classiques, mon Bombaléo, des jeux qui sont presque surdimensionnés, là, des gros jeux de chez Zoc, puis ainsi de suite. Là.
OK. Mais est-ce que tu as trouvé donc des marchés dans ces pays-là? Est-ce que tu vas exporter tes jeux?
Oui, au congrès, la première journée, c'est ça, c'était très international. Fait qu'il y a beaucoup des personnes qui ont fait « Ah, c'est intéressant ». Fait que probablement qu'ils vont s'inspirer de mon concept ou sinon ils vont me contacter pour avoir de l'information. Reste à voir qu'est-ce que ça va donner. Pour l'instant, je ne sais pas. La deuxième journée, là, c'était beaucoup plus des contacts au niveau du Québec. Entre autres, j'ai rencontré le président de l'Association des maisons de famille du Québec. Des centaines de maisons de famille au Québec, où est-ce que les familles qui n'ont pas un gros budget vont dans ces maisons-là passer des vacances.
Ah.
Fait que j'ai déjà eu des contrats dans ces maisons de famille-là. Mais évidemment, je contacte une maison par une maison, mais là, j'ai rencontré le président de l'association.
Okay.
Ça fait que ça, c'est intéressant.
Fait que les maisons de famille du Québec pourraient être équipées des jeux de socio-jeux.
C'est ça. Fait que j'autres cherchent des activités qui sont socialement intéressantes, qui sont très réseautantes, où ce que les familles peuvent jouer ensemble avec les enfants. Parce que c'est simple, la démarche est intéressante.
OK.
Ça fait que
j'étais. Est-ce que c'est juste des jeux surdimensionnés qui s'intéressent ou ils peuvent s'intéresser?
Non, ils s'intéressaient vraiment à tout. Les jeux surdimensionnés, c'était très intéressant. Okay. Ils s'intéressaient à mes formules animatives avec, mettons, mes tournois express, avec toute ma collection de jeux, ma ludothèque, avec toutes les formules que je développe avec les jeux, dans le fond.
OK. Puis sinon, tu me parlais aussi du congrès des gens handicapés. Comment ça marche?
Oui, ben là-bas, j'ai rencontré un autre contact intéressant. L'année prochaine, je vais probablement participer à ce salon-là. C'est précisément le nom du salon, je ne sais pas, mais je sais que c'est un salon qui s'adresse aux personnes handicapées et à mobilité réduite et à leur famille, dans le fond.
OK. Est-ce que ça peut inclure les aveugles ou les...
Oui, aussi, c'est vraiment toutes les personnes en perte d'autonomie. Okay. Ça peut être autant les jeunes, les moins jeunes, les personnes plus âgées. Fait que c'est très large. En fait, ça vise tout le monde qui ont un type d'handicap. Puis, il manque beaucoup, beaucoup de services pour ces types de clientèle-là. Il y a peu de services très adaptés aux personnes handicapées et leurs familles pour pouvoir intégrer tout ce beau monde-là dans les activités sociales. Ça fait que ça, c'était bien intéressant. J'ai un beau contact avec la présidente du salon qui va organiser en 2009 à Québec.
Et là, est-ce que les handicapés peuvent jouer à Keep It, par exemple?
Ah oui, 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 effectivement. Là, c'est idéal pour ça. Le jeu surdimensionné est beaucoup plus intéressant parce que, bon, on est moins dans la dextérité fine. On est plus dans le manuel. On est plus dans les pièces plus grosses. Okay. C'est très intéressant.
Donc, le but, dans le fond, c'est de faire jouer les gens... non handicapés avec les handicapés, dans le fond.
C'est pas nécessairement. En fait, c'est d'intégrer les gens, qu'importe leur couleur, qu'importe leur grandeur, leur état physique. C'est de faire jouer tout le monde ensemble.
Okay.
Le créneau, c'est surtout qu'il y a des activités pour les handicapés, des activités pour les familles d'handicapés, mais il y a très peu d'activités qui intègrent vraiment les deux comme il faut, évidemment. Quand une activité, ils les font ensemble, mais souvent, un et l'autre est mis de côté un peu.
Okay.
Ça fait que pour ça, ça s'intègre bien. Puis c'est des choses qui se font beaucoup en Europe, qui se développent bien.
Ouais.
J'ai vu aussi, j'ai anticipé un peu le créneau. Sauf que là, c'est les clients qui sont venus directement à moi. J'ai pas eu besoin d'aller les chercher.
Mais justement, c'est quel genre de jeu qui se fait en Europe pour les handicapés?
Ben, c'est large, là. C'est pas des jeux qui sont faits nécessairement pour les handicapés. C'est juste que moi, ma stratégie, c'est des surdimensionnés.
Ouais, ouais.
Fait que ça peut intéresser, mettons, les clubs de personnes âgées. Hein, les petits jeux, le petit jeu qui pète, là, qu'on connaît, il est tout petit, ça joue avec les doigts, c'est difficile d'aller chercher. Je le sais parce que lorsque je fais mes animations, je sors le gros jeu et je sors des petits jeux qui pètent à côté pour faire jouer les personnes en attendant. Et ça ne joue pas au jeu qui pète, ça fait la file pour jouer au gros jeu qui pète. Ça fait que ça aime beaucoup plus le jeu, c'est plus gros, c'est plus visuel, c'est plus attirant.
Ben oui, ça
s'ira. C'est le fameux adage « think big ». Quand c'est gros, c'est gros, c'est plus spectaculaire.
Est-ce que Elvis Graton fait partie de tes inspirations?
Ah, sûrement. Alors, mais c'est un petit peu ça. Je me suis dit, essayons de trouver toutes les manières possibles si on veut, d'intéresser les gens au jeu. Puis une manière, une stratégie, c'est de les faire surdimensionner. L'autre manière, c'est de les proposer en formule, tournoi express. Donc le jeu est beaucoup plus... On enlève les règlements, on simplifie, on fait jouer plein de monde en même temps. Aussi, c'est d'offrir des services, hein, d'expliquer les règlements, de rendre la chose simplifiée avec ma ludothèque de 300 jeux, hein, avoir une versatilité de jeu. C'est toutes des stratégies, toutes sortes de manières différentes pour que l'expérience que j'offre à mes clients soit la plus simple possible. On a vraiment une expérience. On focus là-dessus, sur l'expérience. On veut offrir aux clients l'opportunité de vivre une expérience hors de l'ordinaire.
Mm-hmm.
C'est de plus en plus recherché, ce type de produit-là.
Très bien. Donc, écoute, je te remercie beaucoup, Francis. Écoute, on se dit à la prochaine. Tu vas sûrement revenir faire des chroniques.
On va peut-être se revoir après le salon des organisateurs. Je participe le 20 et 21 novembre. Là, un autre gros événement à lequel je devrais participer.
Je te remercie beaucoup.
Vas-y.
La Fiesta Ludique est une fête commerciale. Voici un riff commercial avec le Carloff Orchestra.
Vachement commercial, et nous l'avions fait péter dans les nightclubs de Montréal. Une compagnie de disques s'est empressée de nous signer. Elle disait vive les artistes, ils nous ont vite retapé. Et depuis ce jour fatidique, nous faisons tube après tube, et nous vivons millionnaires, prisonniers de notre calvaire. Commercial, tu veux-tu une vie normale? Tu veux-tu un riff commercial? Tu veux-tu une mélodie banale? vision structurée, un groupe vachement commercial. Et nous l'avions exploité au maximal. Se dit mal, nos formules gagnées d'avance. Plus le brassement général, nous perdîmes vite notre avance. Et ça, ben ça nous tombe dans le moral. Chacun eut son égo trip, à chacun son disque solo. Et depuis ce jour fatidique que nous faisons bid après bid, et nous vivons en has-been en attendant un comeback. Commercial. Tu veux-tu une vie normale? Tu veux-tu un riff commercial? Tu veux-tu une mélodie banale? Et je vais t'en faire un, bière ramollie, vachement sucrée, poupée.
L'arbitre, mettons, c'est moi. Alors moi, je prépare à tourner la carte. Là, quand, là tout le monde se prépare. Et on va faire un exemple. Là, on essaie, les autres essaient de. Lui, il est facile.
Alors, de recréer ce qui est écrit sur la carte.
Ah ouais, mettre ça, comme ça.
Okay, okay, okay. C'est la même chose.
Oui, c'est la même chose, tout le monde. Alors là, bon, là, c'est ça. Là, tout le monde fait ça. Là, moi, je suis l'arbitre, donc là, j'observe pour savoir le moins rapide. Le moins rapide, ah, tu ne l'as pas eu, donc tu ramasses la carte, admettons.
Non, mais pour les enfants d'un certain âge, ça peut être vraiment cool.
Comme nous,
faire réaliser qu'on n'a pas des pouces à l'extérieur des mains.
Alors, on vient jouer à Hands Up. C'est quoi votre prénom, vous?
Marie-Josée.
Comment vous avez trouvé ça?
Bien, j'ai trouvé ça très plaisant. Il faut être rapide, coordonné, puis on a du plaisir.
Comment, à quoi vous jouez d'habitude? Est-ce que vous jouez toujours en famille comme ça?
Souvent. Scrabble, Gangster, Boggle, Rummy. Ouais.
Des bons vieux jeux. Vous venez essayer des nouveaux jeux peut-être aujourd'hui?
Oui, c'est ça. Essayer de voir si on peut trouver des nouveautés, là, puis se griller d'un nouveau jeu pour les fêtes.
J'ai l'impression que tu étais très bon, à part sur les jeux où c'était impossible, en fait. T'as toujours...
Moi, je voulais toujours que ce soit possible. Pour moi, c'est rien d'impossible.
C'est un idéaliste, quoi.
Exactement. Fait que j'ai pensé à un moment donné à me faire greffer des gènes mutants pour que me poussent des pouces à l'extérieur des petits doigts. Et d'ailleurs, pour la prochaine partie, je pense que peut-être aller à l'hôpital pour me faire greffer des trucs. Et là, on pourrait pas dire impossible parce que je l'aurais fait.
Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale.
Oui, donc ouais. On est en compagnie de Monsieur Fall. Donc, cher Monsieur Fall, hein, il paraît que vous utilisez souvent ce début de phrase-là pour vos commentaires sur votre site internet Trick Track. Donc, c'est vous le fondateur de ce site-là. Pourquoi vous commencez toujours par « cher monsieur »?«
Cher monsieur », pas « cher monsieur Fall ». En général, je me dis « cher monsieur ». Ben, en fait, c'est un peu fait exprès. C'est une habitude qui vient un peu du journalisme, on va dire, standard, à la télévision, à la radio, qui consiste à, pour éviter d'exclure le spectateur ou l'auditeur, c'est de vous voyez les personnes même si on les connaît. Donc, c'est une espèce de déformation qui vient de ce moment-là, c'est-à-dire d'éviter. Comme au début de Trick Track, on était deux avec le docteur Mops. Si on s'était tutoyé, ça faisait connivence entre lui et moi, et donc il y avait ce sentiment d'exclusion des autres. Et le fait de mettre ce monsieur ou ce vous voyez, ça a fait qu'on n'exclut plus le lecteur.
Est-ce que c'est pour parodier un peu les grands médias ou...
C'est aussi pour parodier un peu les grands médias, bien sûr. Et en plus, je trouvais que comme on s'envoyait beaucoup de mails ou on laisse des textes écrits, quand on s'adresse à quelqu'un et qu'on est très poli, on dit cher monsieur ou chère madame ou chère mademoiselle. Voilà. Alors au début, ça a été fait comme ça, de manière totalement innocente, puis j'ai vu que ça en agaçait certains et que ça en amusait d'autres. Alors moi, si je peux agacer et amuser, bah, ni une ni deux, je continue, forcément.
Évidemment.
Voilà, il n'y a rien d'autre derrière.
C'est comme ça que ça se passe.
Oui.
Sinon, justement, vous travaillez en France. Le Trick Track, c'est la référence des jeux de plateau dans la francophonie.
Oui.
Pourquoi est-ce que vous êtes venu au Canada, au Québec, là, aujourd'hui?
En fait, c'est très simple. C'est que Trick Track, comme vous venez de le dire, c'est francophone. Donc j'ai remarqué qu'en dehors des Français qui parlent français, il y a toute la communauté francophone qui vient dessus. Les Suisses, les Belges et bien sûr le Canada utilisent aussi Trick Track.
Et l'Afrique donc, aussi peut-être, je ne sais pas.
Oui, l'Afrique. Enfin, il y a des Américains qui utilisent Trick Track, des Italiens, des Espagnols, mais on va dire que... faut un peu parler français, quoi.
Non, mais en Afrique du Nord,
En Afrique du Nord, ils parlent aussi français, oui. Même en Afrique noire, il y a des tas de pays où... Enfin, bref. Donc, ça touche un peu tout le monde. Je fais beaucoup de reportages, surtout en France. Je me déplace un peu en Europe. Et là, il y avait ce... J'ai cru remarquer, comme un peu partout, d'ailleurs, en Europe, autour de la France, à part l'Allemagne, qui est à part et isolée, qui est quand même le moteur ludique, que ça se réveillait un peu partout. Et qu'au Canada, ça se remue beaucoup aussi.
Okay.
Qu'il y a beaucoup de Canadiens qui viennent, qui montent des sites internet. Je fréquente régulièrement. Je vais lire régulièrement ce qui se passe sur Puissance Maximale, sur les Dragons Nocturnes, le Forum, etc. Et Philosophia se bouge beaucoup, nous permet à nous aussi français d'avoir des traductions de jeux français directement, à peine produits.
Bah oui.
Ils sortent en même temps qu'en anglais et en allemand, directement en français. Enfin, il y a un mouvement certain.
Donc les jeux de plateau français qu'on trouve en France peuvent être édités par une compagnie québécoise.
Voilà. Après avoir rencontré en plus les gens de Philosophia qui sont extrêmement sympathiques, quand ils m'ont proposé de venir à vitesse éclair, rendre une petite visite ici, voir comment ça se passait, j'ai pas hésité une seconde. Pour vous dire, j'ai même tellement pas hésité que quand j'ai dit oui et que j'ai raccroché, je me suis rendu compte juste après que j'avais pas de passeport en fait. Je ne fréquente que l'espace Schengen et donc pas besoin de passeport. Et là je me suis dit, il me faut un passeport, vite. Donc j'ai couru après un passeport et j'ai eu mon passeport jeudi.
Okay.
Et je suis arrivé vendredi.
Chapeau.
Avec l'avion. Donc ça a été vraiment speed. Ce qui montre l'envie que j'avais de venir là. Pour voir comment se portait le jeu ici, quels étaient les acteurs un peu qui se bougeaient, et comment était le joueur canadien. Quoi.
Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Québec?
Eh bien voilà, comme je n'avais pas de passeport, c'est la première fois que je viens, je découvre le pays.
Okay. Parce que vous êtes déjà allé aux États-Unis par exemple?
Non, j'ai jamais quitté l'Europe en fait.
Ah oui, j'avais
compris. Donc pour moi c'est une grande première, l'Amérique du Nord c'est une grande première.
Okay.
Quand je commence par l'Amérique du Nord qui parle français, c'est plus facile, donc je parle très très mal anglais. Ouais. Donc voilà, je vois un peu comment ça se passe et je suis très agréable, pas surpris. Mais je trouve que c'est vraiment...
Et pourquoi pas surpris justement? Parce que vous avez déjà lu sur...
Non, parce que même si j'ai l'air un peu comme ça, de pas aimer les gens et l'air très méchant sur Internet, en fait, je suis pas surpris qu'il y ait des gens sympathiques partout sur Terre, quoi. Donc j'arrive là et puis je rencontre plein de gens sympas qui me disent qu'ils viennent sur Trick Track, qu'ils sont contents, qu'ils aiment les vidéos, qu'ils aiment le ton. Donc c'est très agréable, en fait.
Okay.
De faire 5 ou 6 000 km pour s'entendre dire que son travail est agréable, c'est agréable.
Et justement, c'est quoi, là, à brûle pour point, là, c'est quoi vos premières impressions à propos de la fiesta ludique, peut-être des joueurs canadiens?
Je trouve qu'ils en sont là où était la France il y a 4-5 ans, donc c'est de bon augure. C'est-à-dire que le salon est plein. Je trouve que, en tout cas, là, ce qu'on voit ici, là, actuellement, c'est très familial et ça, c'est vraiment bien. Il y a des parents, il y a des enfants, il y a des maris et des femmes, il y a des personnes d'un certain âge.
Oui, c'est pas toujours comme ça, mais aujourd'hui, c'est comme ça.
Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Et ça, c'est très bien. Alors, j'imagine que les premières réunions ludiques qu'il devait y avoir au Canada il y a un an, deux ans, trois ans, c'était un peu plus geek, un peu plus nerd, comme vous dites plus facilement ici. Donc, ça montre une évolution qui est proche de ce qu'on peut trouver en France. Et je pense que d'ici 4-5 ans, on sera pareil. Donc, c'est... le sentiment que j'ai, c'est que ça bouge, ça avance dans la bonne direction. Voilà, quoi. De quoi être satisfait.
Et c'est quoi la différence entre le geek moyen français et le geek... Québécois?
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Ils sont pareils, ils aiment les cubes en bois. Et non, ils sont. Je pense que le geek en général, il aime le même type de jeu. C'est un homme qui a entre 35 et 35 ans. Enfin voilà, ils ont les mêmes préoccupations et ils trouvent le même plaisir dans les jeux. Voilà.
On s'entend, M. Fall, il a payé son billet d'avion lui-même. Il est venu ici pour son travail. C'est-à-dire que. Tu te finances, t'es capable de toi aussi t'es rentable finalement.
Oui, Trick Track est rentable. Trick Track a mis du temps. En même temps, j'avais pas de démarche commerciale au départ du tout. Ça s'est imposé.
Ah.
Voilà. Il y a des gens qui m'ont dit il faut que tu gagnes de l'argent avec Trick Track, sinon le jour où ça va t'embêter, tu vas tout laisser tomber. Et ils avaient raison. Voilà, il y a un moment où faire les choses tout le temps, et puis c'est mieux d'être concentré sur une chose unique et que ça occupe sa pensée du matin au soir.
Okay.
Autant que faire se peut, parce qu'il ne faut pas non plus négliger les enfants et la famille. Et d'ailleurs, que ce soit devenu rentable, c'est même mieux, parce que si on se met à dos la famille, parce qu'on fait ça tout le temps, on pense que jeu, on mange jeu, on ne parle que jeu, ça devient et dangereux pour soi et pour sa famille. Donc évidemment, ils avaient raison et c'est devenu rentable à force, en écoutant les gens, en acceptant je n'ai aucune démarche commerciale personnelle, c'est les gens qui me contactent prendre de la pub, ou qui ont vu les compétences qu'il y avait sur Trick Track, la vidéo, etc., qui me commandent du travail. Okay. Donc voilà. Donc,
C'est les gens qui t'approchent pour...
Voilà, je ne sais pas faire de toute façon démarcher les gens. Donc,
tu ne vas pas voir les compagnies d'édition pour leur demander...
Jamais. Ils me disent, alors on voudrait de la pub, alors on voudrait ça, donc on discute. C'est un luxe, j'en suis ravi et je serai le dernier au monde à me plaindre.
Bravo, c'est assez rare, je pense, dans le domaine du site Internet, d'être rentable, de faire de l'argent avec ça. Et ça fait combien de temps que ça marche, Trick Track?
Alors, Trick Track existe depuis 8 ans. Je travaille sur Internet et sur Trick Track depuis 8 ans maintenant.
Et comment t'expliques que c'est devenu comme le modèle, la référence dans la francophonie
Je ne sais pas. Les raisons que je peux trouver... sont un peu difficiles à expliquer dans la mesure où, on pourrait croire que... Enfin, je pense que le ton, beaucoup de gens me reprochent le ton, mais je pense que le ton, la patte, le fait de faire ce que je veux comme je l'entends, avec les directions que moi je décide, de décider tout seul, ça, on va plus vite, on va à l'essentiel. Alors il y a des gens que ça embête, mais il y a des gens qui adhèrent à ça. Le fait d'être tout le temps sur le pont, pendant très longtemps, j'étais 24 heures sur 24 à chercher les nouveautés, l'actualité, etc. Donc un vrai travail et... sans avoir à l'esprit autre chose que de fournir un outil égoïste. Je voulais un outil qui me plaise à moi et je voulais me faire plaisir. En étant persuadé que si ça me plaît à moi, si je me fais plaisir à moi, il y en a d'autres qui se reconnaîtront parce que je suis un être humain tout à fait normal et moyen. Donc forcément, je vais toucher des gens normaux et moyens comme moi. Et s'il y en a qui accrochent pas, ben tant pis, il y a de la place pour tout le monde, ils trouveront leur bonheur ailleurs. Et je pense que d'avoir fait ça comme ça, ça a fait que... Ben voilà, il y a des gens qui se sont retrouvés, ça leur a plu et ils ont suivi un chemin qui fait que on en est là maintenant, quoi. Okay. Ce qui me permet moi d'avoir une liberté grande, en fait.
Sinon, après le site web, il y a les Trick Track, d'accord, mais est-ce que là tu as commencé à faire des vidéos, des entrevues, tout ça? Est-ce que c'est possible que tu te diriges vers autre chose comme la télévision à la télé ou...
À la télévision à la télé, je sais pas, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que mon métier, c'est pas l'informatique, mon métier, c'est pas le développement. J'ai développé Trick Track au début, je l'ai tout programmé, mais c'est pas mon métier du tout. Moi, je viens d'une école d'art, donc au départ, mes envies, mes motivations, c'est l'image, c'est le son. C'est pour ça qu'il y a toujours eu des photos, il y a de la vidéo, et plus ça va, plus je m'équipe en vidéo. Dans l'officine Trick Track, dans les locaux, on a des caméras, une grue, un fond vert, on a installé, et je tends vers ça.
Okay.
Je ne pense pas à la télévision. Je pense que Internet est un média absolument génial pour ça. On peut faire des vidéos comme on veut, sans être sujet à l'audience, on peut tenter des expériences. Donc évidemment, je tends vers ça. La télé, j'y pense pas. Si on vient me chercher pour faire des émissions de télé, pourquoi pas? Je fais une émission de radio toutes les semaines sur Libération. Libération est un grand quotidien français.
Oui.
Ils sont venus me voir, ils ont une émission, ils ont un site internet qui s'appelle Libé Labo, où ils font des expériences audio, vidéo, qui est en annexe de Libération, le site internet. D'ailleurs, l'expérience a un an, donc ça fait un an que je fais ça avec eux. Une émission qui s'appelle... je ne sais plus comment, là, je suis pris de court, qui parle de jeux. En fait, ça parle de jeux vidéo. Silence en joue, ça s'appelle.
De jeux
ça
vidéo
parle de, Silence en joue, ça parle de jeux vidéo. Ah. Et ils m'ont demandé de faire une chronique de 2 minutes sur les jeux de société toutes les semaines.
Okay.
Voilà. Je la fais gentiment, bénévolement, je la fais chez moi, je leur envoie toutes les semaines via Internet et ils la diffusent à l'intérieur de leur truc. Et la formule plaît, puisque maintenant elle a été intégrée directement dans le site de Libération. Il y a une deuxième envie qui s'appelle Libé Labo. Voilà, ça, je l'accepte, ça m'amuse. Ils me demandent rien d'autre que de faire ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie. Donc voilà, si on me demande, je fais. Si ça me plaît, je continue.
Chouette.
Voilà, donc je ne refuserai pas de faire de la télé ou quoi que ce soit, mais je travaille pas. Enfin, je ne fais pas les choses pour ça, non.
Écoutez, Monsieur Fall, je vous remercie beaucoup. Bienvenue au Québec, le pays des castors et des forêts.
Notez que je n'ai vu aucun castor. J'ai traversé une ou deux forêts, mais je n'ai pas vu de castor.
Alors, je vous remercie beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie. À bientôt.
Les Standardistes est un groupe de Québec qui se spécialise dans la reprise de deux chansons populaires du folklore mondial. Ils vont nous faire une reprise de la chanson de la guerre des étoiles.
Monsieur Davis, ne vous laissez pas impressionner par tous ces romans fiction.
Un nouveau-né en mutation génétique.
Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
Alors, nous sommes à Puissance Maximale. Bonjour à tous et bonjour particulièrement à Mme France Nault.
Bonjour.
Qui est avec nous. Et vous êtes de la compagnie Québec Amuse.
Oui, c'est une petite maison d'édition que j'ai fondée en février dernier.
Février dernier, donc oui. C'est tout nouveau.
C'est tout nouveau.
Oui, est-ce que c'est votre première sortie, si on veut? Première présentation à la première édition de Fiesta Ludique, donc à Montréal?
C'est la première présentation au public, au grand public.
Oui.
Mais j'ai participé au Salon du jeu de Drummondville, qui est un salon pour les gens de l'industrie.
D'accord.
Mais ouvert au grand public, oui, j'ai participé aussi au kiosque des fêtes de Nouvelle-France pour célébrer le 400e cet été. J'étais là.
C'est vrai, oui.
Avec le jeu édition spéciale Ville de Québec.
Oui.
Sur le site.
Et d'ailleurs, ça rappelle un peu l'histoire, hein, parce que je pense que Québec avait écrit avec des cas comme ça. Je sais que c'était une façon de l'écrire à l'origine.
Exactement. En fait, le premier jeu que j'ai fait est l'édition spéciale sur le 400e de la Ville de Québec. Et quand vous achetez le jeu pour cœur caisse à Lando, vous avez toujours la question de l'as de cœur. Et l'as de cœur, la question, c'est le nom de Québec provient du mot Québec, K-E-B-A-K. Que signifie ce terme algonquin? Et le nom de Québec Amuse vient K-E-B-A-K. Ça a été la première façon dont le mot Québec s'est épelé et ça vient du terme algonquin. Et voilà. C'est un choix que j'ai fait pour célébrer en même temps le fait français.
Oui,
le
pour fait, rappeler l'histoire.
Le donc, fait francophone ce n'est pas, en Amérique du Nord. Oui, oui.
Ce n'est pas une erreur, une faute de frappe.
Non, c'est ce
le
n'est
vrai
pas
nom
une erreur.
Original.
Non, c'est la première façon dont le mot Québec s'est épelé sans accent, bien
oui,
sûr.
Oui, en plus,
oui.
Voilà.
Oui, oui.
Et peut-être, là, je pense qu'il y a plusieurs versions de votre jeu qui est Poker Quest. Et il y en a un, entre autres, donc, dont la thématique, c'est Québec, le 400e. Est-ce qu'on pourrait voir quelques exemples, du principe? Là?
Oui, certainement, je peux l'expliquer.
Oui.
Alors, tout d'abord, je sais que par défaut et par habitude, on dit Poker Quest, mais c'est Poker Quest.
Ah!
Parce que c'est un jeu questionnaire.
Bien sûr, Quest.
OK?
D'accord.
Donc, Quest pour question. Poker, parce que le but du jeu est de se constituer la plus forte main de poker. Et pour ce faire... Il faut être le premier des joueurs à répondre à la question posée.
D'accord. Et on ramasse la carte à ce
moment-là. Et on ramasse la carte, on la dépose devant soi à découvert, et c'est celui qui se constitue la plus forte main de poker. Le jeu se termine quand il n'y a plus de questions du paquet au milieu.
OK.
La première édition, c'est une édition spéciale que j'ai faite pour célébrer le 400e de la Ville de Québec. Donc, les questions parlent de notre histoire, des origines du fait français en Amérique du Nord et naturellement de la Ville de Québec. Celui-ci est en français seulement. Et avec les nombreux professeurs que j'ai rencontrés aux Fêtes de Nouvelle-France cet été, qui trouvaient que c'était un outil pédagogique intéressant pour intéresser les jeunes à l'histoire, ils m'ont incité à créer d'autres versions, mais cette fois-ci bilingues. Et la plupart étaient des professeurs francophones de l'Ouest du Canada qui me disaient « Les prochains jeux, pourriez-vous les faire bilingues? On pourrait s'en servir également pour apprendre l'anglais ou le français. » Donc, le premier de la série dite « régulière » et non une édition spéciale, c'est Capitale du monde ici, qui est également en anglais, donc World Capitals. Donc, les gens peuvent l'utiliser et pour apprendre les capitales, et pour apprendre le français, et pour apprendre l'anglais.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la distribution, vous allez pouvoir peut-être éventuellement conquérir le marché anglophone canadien.
C'est-à-dire, oui, au Canada anglais, c'est sûr que Ça part doucement, mais j'en ai vendu au Yukon, l'association francophone yukonaise.
Ah oui.
J'en ai vendu dans deux écoles francophones en Alberta, quelques écoles francophones en Ontario et au bureau des délégations de la délégation du Québec à Atlanta et Boston, entre autres. Et c'est sûr qu'avec Capitale du Monde qui est dans les deux langues, le Canada anglais peut être peut-être plus intéressé que seulement la version française sur le 4 centimes de Québec. Et ben, je ne me cacherai pas le fait que si je veux vivre de ma création, je devrais probablement aller aux États-Unis et je suis en train de faire des démarches en ce sens. Mais je dois préciser que Québec Amuse, la philosophie de l'entreprise, c'est les produits sont entièrement fabriqués au Québec et de matière recyclée.
OK.
Donc, je ne connais pas tous les jeux ici présents. Il y en a quand même plus de 250, mais qui remplissent ces deux conditions, je suis pas mal certaine que je suis la seule ou sinon une des rares.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'est rare.
Oui, oui. Alors, on fait travailler les gens de chez nous sans toucher trop à l'environnement pour s'amuser.
Oui, c'est bien. Oui.
Donc, pour à peu près 15 $ ça fait un beau cadeau de Noël et pour les enfants et pour les adultes. Et voilà.
OK, ouais. Oui, c'était ma prochaine question.
Le prix, oui. C'est à peu près 15 $ Ça se détaille à peu près 15 $ dans les librairies, oui. Et okay. Les magasins jouets.
Et c'est, okay, c'est disponible aussi dans les grandes librairies aussi?
Oui, dans les grandes librairies, pas mal partout au Québec, informez-vous. Sinon, vous pouvez très bien envoyer un courriel et je vais vous dire exactement où est-ce qu'ils sont.
OK. Et on rappelle que le site Internet, donc aussi, www.quebecamuse.com avec un K-E-B-E-K-A-M-U-S-E.
Voilà.
Québec Amuse. Une autre question de Vincent?
Une question pour Mme Nau. Juste pour savoir... On imagine que les gens qui créent des jeux, ce sont des passionnés du monde du jeu. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est vous êtes une passionnée des jeux de cartes tout simplement ou des jeux en général?
Je pourrais pas me qualifier de passionnée des jeux de société en général parce qu'à la quantité de jeux que je vois ici, je m'aperçois que j'en connais très peu. Par contre, je viens d'une famille où on joue aux cartes depuis que j'ai 3, 4, 5, 6 ans. Monopoly, Scrabble et encore aujourd'hui, dans la période des fêtes justement qui s'en vient. Donc, l'éveil aux jeux de société est là depuis que je suis toute petite. Mais je peux pas dire que je suis une passionnée. Là, j'en vois des beaucoup plus passionnés que moi ici là, qui sont vraiment, vraiment des fervents puis qui connaissent à peu près tous les jeux qui existent sur le marché, ce qui n'est pas mon cas.
Alors, merci beaucoup, donc, Mme France Nau de Québec Amuse pour cette entrevue à puissance maximale. On apprécie beaucoup.
Bien, je vous remercie beaucoup de votre temps accordé. Puis surtout, amusez-vous avec les beaux produits québécois. Il y a beaucoup, beaucoup de créativité pardon, chez nous ici.
C'est vrai.
Profitez-en.
Et donc, on en profite pour souligner PokerCast, là, qui est une belle opportunité pour essayer des produits québécois. Merci beaucoup, Mme Nau.
Exactement. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Harmonica.
Vous écoutiez Puissance Maximale en direct de la Fiesta Ludique à Montréal. On remercie nos invités Sophie Gravel de Philosophia, le créateur Friedman Fries, Francis Gagnon de Sociojeux, M. Fall de Trick Track et France Nau de Québec Amuse. Cette émission est une création de Vincent Langlois, Christian Lacroix et François Gécouillard. On se laisse là-dessus et on vous souhaite une bonne semaine.
It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin, it's D&D! Fighting with the legends of yore, it's D&D! Never kissed a lady before,
nope!
Mm-mm. Woo! Alright, take it home.
A little solo for it.
One more time.